Témoins du chemin. Une émission réalisée par Domitil de Vevey.
L'expérience, l'aventure de ce pèlerinage est juste extraordinaire.
Parce qu'en fait, on n'est jamais autant libre que sur ce chemin. On est d'une liberté absolue.
On s'aperçoit vite que tout est beaucoup plus simple que dans notre vie de tous les jours.
Quand on revient de Saint-Jacques, on n'est pas indemne.
Souvent, les randonneurs partent marcheurs et arrivent pèlerins.
En tant que médecin, je dirais que ça serait vraiment une bonne chose à mettre sur certaines ordonnances. Pèlerinage à Saint-Jacques, matin, midi et soir, pendant 2 mois, c'est formidable, quoi.
Cela fait 11 siècles que le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle est parcouru par les catholiques depuis toute l'Europe. Le but ? Atteindre le tombeau attribué à l'apôtre Saint-Jacques le Majeur, situé dans la crypte de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne. Mais le pèlerinage de Saint-Jacques est également devenu une randonnée pédestre célèbre où les marcheurs croisent les amateurs d'art roman. En 2017, près de 300 000 randonneurs pèlerins y ont été enregistrés, dont 43% environ dans un but déclaré religieux, 47% pour des raisons spirituelles et 9% pour des raisons sportives ou autres. Dans ce 4e épisode, nous questionnons cette relation entre les chemins de Compostelle et la spiritualité. Le chemin nourrit-il la foi ? Peut-il la faire naître ? Qu'en est-il des athées ? Dominique Daniel, par exemple, nous raconte que quand il est parti marcher, ce n'était pas du tout dans un but religieux.
C'était l'envie de vivre, encore une fois, quelque chose d'intense, quelque chose qui nous coupe de notre quotidien et nous replonge peut-être aussi un petit peu plus à notre place. Quand on marche, il y a des églises, il y a des couvents, il y a un certain nombre de lieux religieux. Moi, j'aime m'y arrêter, éventuellement les visiter, pour des raisons évidemment d'histoire, d'architecture, mais sont aussi des lieux de paix. Quand je vis à Paris, il m'arrive de rentrer dans des églises comme ça pour trouver du silence, une certaine lumière qui permet de se poser, de s'apaiser même. Donc on croise tous ces lieux et c'est des lieux où il fait bon s'arrêter et puis s'imprégner en fait un petit peu aussi de ces atmosphères.
Vous avez trouvé quelque chose, une forme de spiritualité sur le chemin de Compostelle ?
Je pense que je ne sais pas si c'est le mot spiritualité, en tout cas ce que ça m'a amené, il y a deux choses. Le ressenti, c'est que je me sens aligné avec moi-même quand je marche. Ça c'est vraiment, si je vais dire quelque chose, je me sens aligné avec moi-même. Une autre chose, c'est que ça m'amène encore plus de sérénité. Ça m'amène encore plus, oui, de sérénité, de paix, que je porte avec moi dans mon quotidien. Après, ça je me rends compte, dans mes relations, dans ma manière d'aborder les choses.
De fait, le chemin de Compostelle ne laisse personne indifférent. Laurence Lacour, que nous avons entendu dans l'épisode précédent, raconte comment le chemin et les rencontres faites durant cet hiver 1998 lui ont ouvert le cœur.
Honnêtement, je n'avais pas de spiritualité quand j'ai entamé cette démarche, parce que j'étais vraiment dans une démarche de rupture. Mais avec mon petit nombril, quoi, avec ma petite vie, avec mes petits soucis, qui étaient énormes pour moi, mais évidemment avec le recul, c'était de l'ordre de l'égocentrisme. Donc non, je ne suis pas du tout partie dans une démarche ni religieuse, ni spirituelle. Et d'abord, j'ai retrouvé dans le patrimoine religieux qui jalonne ce chemin un émerveillement que j'avais perdu, notamment dans toute la partie romane et puis ensuite, plus tard, dans la partie gothique et flamboyante de l'Espagne, des genres très très différents, des exubérances ou des sobriétés très différentes. Et ça m'a ouvert les yeux. J'avais oublié la beauté du patrimoine religieux. Ensuite, le père Hildeuil m'a incontestablement, c'est pas pour rien si je pense, c'est ce prêtre qui m'a aidé à entrevoir la suite de mon cheminement. Et forcément, il m'a transmis quelque chose de sa propre spiritualité. Et puis après, dans la deuxième portion, j'ai été confrontée dans mon chemin espagnol à l'obligation de rencontrer les autres. Alors d'abord, c'est un chemin sur lequel il n'y avait personne à l'époque. Octobre, novembre, ce n'était pas du tout fréquenté. Mais j'ai quand même rencontré une poignée de pèlerins. Et en fait, les pèlerins de l'époque, ceux que j'ai rencontrés, étaient plutôt des routards ou des gens un peu perdus, que je n'avais absolument pas envie de côtoyer. Parce que voilà, j'étais dans mon petit univers et puis je ne me reconnaissais en rien dans ces gens-là, qui étaient 3 ou 4. Et puis, ben, évidemment, à force d'avoir froid, à force de chercher un refuge, à force d'avoir un peu faim, eh ben, l'adversité nous a finalement contraints à nous réunir. On a partagé des dîners, j'ai eu l'occasion d'en offrir parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Il y a eu un échange comme ça qui s'est créé. Et je dirais que dans cet ensemble de religieux, de patrimoine, de transmission par ce prêtre, d'obligation pour ma part à ouvrir mon cœur qui était quand même bien fermé, eh bien, il est né de tout cela et de la contemplation aussi de la nature qui était absolument merveilleuse, de son intelligence, de sa richesse, de sa beauté. Eh bien, je dirais que de tout cet ensemble est né en moi une spiritualité qui ne m'a plus jamais quittée. Et d'ailleurs, le père Hideuil disait toujours plus on est humain, plus on est spirituel, et plus on est spirituel, et plus on est humain. Et ça, je l'ai vraiment vécu dans ma chair.
Gaël Delabrosse est journaliste au Pèlerin et également auteur de nombreux ouvrages autour du chemin de Saint-Jacques de Compostelle et la spiritualité. Elle a publié tout récemment le guide spirituel de la voie du Puy-en-Velay aux éditions Salvator et nous livre son expérience à ce sujet.
On part en effet pour faire grandir sa foi. On n'a pas forcément l'idée de ce qu'on va trouver sur le chemin. Et souvent, on passe par une déconstruction. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée à Compostelle la première fois, c'était en 88. Et là, je suis arrivée donc, au Finistère, un peu plus loin que Compostelle, là où on arrive au bord de la mer. Et là, ça a été en fait un choc. Il y a quelque chose qui s'est passé. On dit souvent, quand on arrive au bout de la terre, eh ben, le vieil homme meurt et un nouvel homme qui revient. Et là, en effet, il y a eu une sorte de... On peut dire que la mer a lavé un peu toutes les idées préconçues que j'avais, enfin toutes les bases peut-être sur lesquelles s'était construite ma pratique de la religion. Et pour devenir beaucoup plus personnel en fait. Hein. Donc je n'ai rien renié, loin de là, de tout ce que j'avais reçu. C'est la gratitude qui me porte vers mes parents qui m'ont donné cette éducation religieuse. Mais simplement, le pèlerinage permet d'intérioriser la foi, de le vivre de manière beaucoup plus personnelle et plus incarnée aussi. Moi, c'est ce que j'ai vécu en tout cas sur le chemin et je peux dire que si j'avais pas eu cette expérience du pèlerinage très jeune, hein, parce que je ne sais pas que serait devenue ma foi, je pense qu'elle serait plutôt la lettre que l'esprit, on va dire. En tout cas, j'ai trouvé l'esprit de la foi, l'esprit de ma foi, et je pense que sur les chemins, la spiritualité de la route, j'aime beaucoup cette expression, voilà, la spiritualité de la route.
La marche et la foi sont donc puissamment liées, comme nous l'explique Mgr Emmanuel Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon et ancien recteur de la cathédrale du Puy-en-Velay.
Le rapport entre la marche et la foi, pour moi, il est très facile à établir parce que Jésus, c'est un grand marcheur. Il n'a pas arrêté de marcher. Quand on lit l'évangile, il allait de village en village, à la rencontre des gens, à la rencontre des personnes. Il marchait avec ses apôtres, il marchait avec ses disciples. Il marchait même quand il était seul. Il laissait les autres marcher devant lui. Et puis, subrepticement, il s'introduisait dans la conversation, comme avec Jacques et Jean, qui avaient une conversation pas très ajustée pour savoir qui serait le premier. Il a fait un pèlerinage à Jérusalem dès 12 ans. Il a accompagné des disciples d'Emmaüs aussi, même après la résurrection. Donc il n'a pas arrêté de marcher. Ça veut dire que mon rapport entre la foi et la marche, c'est d'abord mon rapport entre moi et Jésus quand il marche. En elle-même, c'est quelque chose de très positif parce que ça implique toute ma personne, ça m'oblige à bouger, j'allais dire à sortir de moi, à découvrir, à observer. Voilà, Jésus nous montre que la foi, c'est pas d'abord une démarche intellectuelle, par ses multiples marches d'ailleurs, c'est d'abord une rencontre. Voilà. Pour aller à la rencontre, il faut déjà que je commence par sortir de chez moi. Donc pour moi, le rapport entre la foi et la marche, il est d'abord dans le rapport personnel à Jésus, avant d'être une réflexion intellectuelle.
Donc quand on marche sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, est-ce qu'on marche vers Jésus ou avec Jésus? Comment est-ce qu'on peut l'interpréter?
Pour moi, en tout cas, je le vis toujours comme d'abord une marche avec Jésus. Parce que marcher vers Jésus en allant à Saint-Jacques de Compostelle, ça voudrait dire qu'on ne le découvre qu'à la fin. Ce qui est embêtant, on aura perdu beaucoup de temps. Non, je préfère qu'on marche avec Jésus. On marche aussi vers Jésus, d'ailleurs. Hein. Les deux sont vrais. Et d'ailleurs, il faut dire quelque chose d'un peu presque choquant, mais on marche, entre guillemets, sur Jésus, puisque Jésus a dit « Je suis le chemin ». Donc, d'une certaine manière, ce chemin de Saint-Jacques, il est Jésus, si Jésus a dit « Je suis le chemin ». Donc, il y a quelque chose de très fort de se dire que je rencontre Jésus dans le fait même de marcher. C'est pas seulement dans les personnes qui m'accompagnent, dans le fait que Jésus est présent dans mon cœur, mais dans la marche elle-même, il y a Jésus. Jésus est là. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et j'aime beaucoup l'idée de chemin là-dedans. Ensuite, je marche avec Jésus aussi parce que Jésus est présent dans tous ceux que je rencontre sur ce chemin. Et donc, Jésus étant présent en nous par la foi, comme dit Éphésiens 3, 17, je crois. Et Jésus, le Christ habite en nos cœurs par la foi, il habite en chacun de nous. Et c'est aussi une façon de découvrir Jésus présent dans la personne de l'autre, parfois. Dans le pauvre, lorsqu'il fait ce pèlerinage en souffrant et qu'il y a beaucoup de choses à porter. Puis dans n'importe quelle personne humaine, même chez ceux qui n'ont pas eux-mêmes la foi, Jésus est présent d'une manière mystérieuse.
Alors qu'il était au séminaire au Puy-en-Velay avant de commencer sa prêtrise, Mgr Emmanuel Gobillard a voulu faire la partie française du chemin de Compostelle, du Puy jusqu'à Lourdes. Il nous livre son apprentissage le plus important sur le chemin.
J'ai découvert le silence, mais d'une manière surprenante. Ce qui m'a impressionné, ce n'est pas tellement le silence extérieur, même s'il existe, en particulier dans l'Aubrac, donc gros silence extérieur autour de soi, mais le silence extérieur, il nous permet, ce que j'ai éprouvé, ce que j'ai ressenti, il permet d'entendre notre bruit personnel, notre bruit intérieur. Le bruit intérieur, il est parfois assourdissant et il peut être insupportable. C'est le bruit de notre orgueil, c'est le bruit de tous les sentiments confus qui nous habitent. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas du silence, parce qu'ils ont peur de s'entendre eux-mêmes ou d'entendre leur cri réel. Pourtant, il est très très nécessaire à entendre ce cri. Et ensuite, la découverte que le seul qui pouvait m'écouter vraiment et qui pouvait apaiser ce bruit, c'était Jésus, l'hôte intérieur, l'ami, et que le silence intérieur se faisant grâce à lui, grâce à son accueil et sa miséricorde, je pouvais me permettre d'entendre le bruit des gens, le bruit extérieur. Mon intérieur étant en silence, je pouvais me permettre d'être dans une vie extérieure bruyante, bruyante du bruit de la souffrance des gens, bruyante des difficultés, des péchés, des guerres. Et pour moi, le vrai silence, c'est ça. C'est ce que j'ai découvert à Saint-Jacques. C'est vraiment la chose la plus importante que j'ai découverte.
En évolution.
Léonard Tando, hospitalier à Estaing, dans l'Aveyron.
On voit bien quelques accueils où on est confondu par des pèlerins qui se disent pèlerins, qui font le chemin de Saint-Jacques, qui est un chemin de pèlerinage chrétien, qui se disent éventuellement athées ou agnostiques, et finalement, quand ils nous parlent, c'est de l'évangile pur. Donc ils n'ont pas réalisé tout à fait ce qui leur arrive, ce qu'ils disent et ce qu'ils ressentent. Ils n'ont pas mis les mots encore dessus, mais de rencontre en rencontre, pas après pas, étape après étape, église visitée après église visitée, ben les choses se précisent pour beaucoup. Mais c'est vrai que les motivations au départ annoncées peuvent être très différentes. On peut avoir des personnes qui sont juste à une charnière de vie, soit après les études, soit à la retraite, soit après un deuil ou une séparation, etc., et qui ont besoin de faire le point un peu sur leur vie. D'autres qui sont réellement victimes de notre économie actuelle et qui sont en burn-out. Et là, c'est en tant que médecin, je dirais que ça serait vraiment une bonne chose à mettre sur certaines ordonnances. Pèlerinage à Saint-Jacques, matin, midi et soir, pendant 2 mois, c'est formidable, quoi. Pour ces personnes qui sont en burn-out, parce que déjà au bout d'une semaine, les choses s'éclairent et le fait de marcher comme ça dans la nature, de mettre en mouvement tout son organisme et mettre en ordre ses pensées et puis toutes ces rencontres où finalement les rencontres sont plutôt agréables parce qu'elles sont authentiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas de représentation sociale, on est tous pèlerins.
Seigneur Jésus, je me confie à toi qui m'accompagne sur mon chemin. Avec l'aide de ton disciple et ami Saint-Jacques, j'aimerais découvrir ton pas. J'aimerais comprendre ce que tu attends de moi aujourd'hui et pourquoi pas oser te rencontrer sur mon parcours. À la croisée des chemins, en marchant ou en me reposant sous un vieil arbre, rencontre inattendue dans le silence ou bercée par le chant du vent. Où es-tu ? Toi qui mets dans mon cœur un désir d'absolu, des rêves fous et audacieux, des poèmes d'amour et de joie. Est-ce toi que je cherche ou une autre personne? Est-ce moi que je veux apprendre à connaître ou les autres que je rencontre? Toi le tout autre, à la fois si loin et si proche, emmène-moi sur tes chemins, plus loin, plus haut. Merci infiniment à Gaëlle Delabrosse qui m'a permis de vous lire cette prière. Elle est en effet tirée de son ouvrage « Guide spirituel de la voie du Puy-en-Velay » tout récemment publié aux éditions Salvator. Vous lirez aussi l'ouvrage collectif « À Compostelle » du même éditeur pour découvrir le texte de Mgr Emmanuel Gobillard et bien d'autres. Merci à lui, merci à Dominique Daniel, à Laurence Lacour, à Léonard Tando et encore une fois à Gaëlle Delabrosse. L'Ave Maria de Gounod était chantée par René Fleming. Le générique de cette émission a été réalisé par Alex Dirks. Le prochain épisode de Témoins du chemin vous expliquera comment préparer son départ sur le chemin de Compostelle, alors, comme disent les pèlerins, Ultreia et Suseia.